Accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Il y a bien sûr cette fameuse madeleine de Proust. C'est même devenu une expression courante de notre langue française pour désigner tout objet, comestible ou pas, capable de réactiver un souvenir d'enfance. Mais on aurait tort de réduire l'écrivain et son œuvre à ce mythe littéraire, la représentation de la nourriture dans ce monument qu'est à la recherche du temps perdu est beaucoup plus riche et complexe. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. On brosse le portrait gourmand de Marcel Proust avec notre spécialiste de la littérature dans la bande dont on va déguster, Stéphane Solly. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes agrégé de lettres classiques, professeur au lycée Janson de Sailly à Paris. Vous êtes chercheur en culture alimentaire, spécialiste aussi, il faut le dire, de la cuisine italienne. Vous êtes l'un des piliers de notre livre « On va déguster l'Italie ». Alors l'actualité de Proust est riche. Nous commémorons en novembre prochain le 100e anniversaire de sa mort. Et puis signalons aussi une exposition que vous avez vue, je crois, qui a lieu en ce moment à Paris.
Exactement, au musée Carnavalet, qui a été repoussée vu le succès et qui a une section consacrée à Proust et la nourriture et le Paris gourmand.
Proust, un roman parisien au musée Carnavalet. On va également tout au long de cette émission déguster la prose de Proust. Difficile à dire ça, la prose de Proust, grâce au comédien Emmanuel Gori, qui a interprété pour nous de savoureux passages de La Recherche. Dans les fauteuils des chroniqueurs, aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir notre chef cuisinière Manon Fleury et notre chroniqueur vin Dominique Hutin. Salut les copains.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va, Manon?
On va parler d'une salade plus ou moins japonaise et je crois proustienne.
Absolument attachée à l'œuvre de Proust, tout à fait, on va la déguster. Elle est déjà dans une assiette à mes côtés, elle fait très envie, je ne l'ai pas encore boulottée, mais ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Dominique ?
Moi, je vais vous parler d'un autre monument français qui est partagé entre aristocratie et image populaire. C'est le vignoble du Beaujolais.
Le vignoble du Beaujolais, avec un gros travail de dégustation que vous avez effectué. Vous nous en parlez tout à l'heure pour interagir avec nous dans l'émission. Il y a notre mail, on va déguster à radiofrance.com. Il y a également le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et pour retrouver tous les contenus de l'émission, recettes, podcasts, mais aussi nos bonnes adresses, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Chers amis, avant de plonger dans l'univers gourmand de Proust, vous connaissez la tradition, je vous ai apporté en ce début d'émission une petite surprise. Vous la voyez là, de quoi s'agit-il? Une petite description, Manon?
Ça ressemble à une brioche.
Brioche, le mot est lâché.
Enfin, c'est en forme de couronne.
En forme de couronne également, brioche en forme de couronne, tout à fait.
Peut-être du pavot sur le dessus ou quelque chose.
Du pavot,
qui pourrait ressembler.
Des graines de pavot, Stéphane Solier.
Des amandes entières.
Oui.
Ont été roulées dans le sucre, j'ai l'impression.
C'est ça, caramélisées, roulées dans le sucre, un peu.
Peut-être des fruits qui seraient cachés dedans aussi.
Il y a des raisins secs, bien joué, des raisins secs imbibés. Est-ce que vous pourriez éventuellement déceler une identité pour cette brioche?
Moi, ça me fait penser à toutes ces brioches que l'on a dans la culture centre-européenne.
Ah, carrément. Ah, ben il y va, lui, à direct.
Bon. Ben, je sais pas, oui.
C'est les graines de pavot, peut-être.
Les graines de pavot, absolument. Qui font penser à ça.
Eh ben, vous chauffez, Stéphane Solier. Pour révéler l'identité de cette brioche bien particulière, je me suis rendu au 181 rue Ordener, Paris 18e. C'est l'adresse de la boulangerie-restaurant Boulhomme. Et j'ai tendu le micro à son patron, Julien Dubouet. Alors, cette brioche en forme de couronne, c'est...
C'est une kolache, une traditionnelle brioche ukrainienne qui est offerte pendant les fêtes de Noël avec Jean-Marc Notelet. On a eu cette belle idée de fabriquer ces brioches et de reverser l'intégralité aux Ukrainiens qui arrivent en France.
Je pense qu'il fallait être dans l'action. Je pense qu'il faut faire ce qu'on sait faire. Et nous, faire ce qu'on sait faire, c'était de faire quelque chose à manger. La brioche, c'est rassembleur. C'est l'énergie du matin. Et puis ce qui serait bien maintenant, c'est que ça soit un peu globalisé, que tout le monde s'y mette, et puis qu'on sente qu'il y a un vrai mouvement national, au même titre qu'ils ont un mouvement national de défense aujourd'hui, hein, parce qu'ils sont tous en train de se battre bec et ongles, voilà, et c'est de les accompagner avec des choses simples.
Le principe, c'est de reverser l'intégralité de la vente de ces brioches à France Terre d'Asile, qui est une association qui va gérer les Ukrainiens qui arrivent en France pour les loger, pour les nourrir, pour aussi les insérer dans la vie active française. Donc voilà, on s'est mis à les fabriquer le soir, parce que le matin, on avait pas mal de boulot déjà, avec des bénévoles qui sont venus nous aider tous les jours, par deux, par quatre. Et tout le monde l'a fait automatiquement, en fait. On n'a rien eu à demander. On a reçu 50, 70 kilos de beurre, de farine, des cocottes pour les cuire. Donc l'élan est magnifique, ça cartonne, on en vend 100, 150 par jour. Donc ça commence à faire pas mal d'argent et c'est top. Tous les matins, on façonne la pâte, on va y aller ensemble. Et le soir, on pétrit et on pousse, on cuit.
Mathieu Delmet, chef pâtissier du restaurant Boulum avec Julien. Plus qu'à étaler la pâte, on va tresser. Du coup, c'est comme faire des nattes avec les cheveux. Donc on coupe trois petites bandes sans couper au bout d'un côté pour qu'elles restent attachées les trois ensemble. Et une fois que j'ai coupé ça, je vais pouvoir faire ma tresse.
Ah ouais.
Le soir, j'avais mes deux enfants de 5 ans et 6 ans qui sont venus m'aider à les faire pendant 3 heures le soir. Mais autant te dire qu'ils savent faire les tresses maintenant.
Donc là, j'ai les cocottes et puis je vais venir déposer la tresse à l'intérieur.
Tout autour pour faire une espèce de couronne finalement.
Exactement, comme une couronne. Il faut que ça, au moins que ça double de volume avant de partir en cuisson. Et donc là, Julien, il est en train de faire la finition des produits.
On va la dorer, donc on va mettre un peu de jaune d'œuf. On la parsème d'une bonne cuillère à soupe d'amande et d'une bonne cuillère à café de pavot. Et la touche du cuisinier, un tout petit peu de fleurs de sel dessus. Et là, on part au four pendant 25 minutes à 180 degrés.
La collache de Julien Duboué, cuite à la cocotte. Alors c'est 20 euros, un prix délibérément élevé, mais l'intégralité des recettes est reversée à l'association France Terre d'Asile pour aider nos amis ukrainiens. Et d'ailleurs, Boulum est ouvert aujourd'hui, dimanche, pour la boulangerie, donc vous pouvez acheter votre brioche aujourd'hui, ou pour le brunch aussi. Et Jean-Marc Notelet, le chef de Caius, à l'origine avec Julien Duboué de cette belle initiative solidaire, fait également une brioche dans son formidable bistrot Caius, 6 rue d'Armaillé, Paris 17e. Certains auditeurs nous signalent déjà que la collache ou calache, ça dépend un peu des appellations, ça désigne des brioches pas seulement en Ukraine, hein, évidemment, vous l'avez dit un peu Stéphane Solier, c'est dans toute l'Europe de l'Est, de la Russie à la Hongrie, en passant par la Roumanie, on trouve même une brioche aux myrtilles nommée collache en Tchécoslovaquie. Est-ce qu'il est question de brioche dans l'œuvre de Marcel Proust?
Alors, oui, pardon. Bien sûr, la brioche dans l'œuvre est toujours associée au plaisir du dimanche dans l'enfance du narrateur. On a quand même aussi des témoignages, dans, notamment par la dernière domestique de Proust, du fait que Proust s'approvisionnait en brioche chez un certain Bourbonneux.
Ah, à Paris.
Dans le cinquième, oui, à Paris.
Ah, donc il était dégustateur de
brioche.
De brioche.
Après, plus il a avancé dans le temps, plus c'était les croissants.
Et Stéphane Solier raconte aussi de très belles histoires de cuisine sur un compte Instagram que je vous invite vraiment à aller visiter. Là, on y trouve vraiment ce beau mélange de saveurs et de savoir. Et ce nom de ce compte Instagram,
La vita è una brioche.
Pourquoi ?
La vita è una brioche, c'est un proverbe napolitain qui indique que la vie passe très très vite et que la vie gonfle comme une brioche. Et le temps qu'on s'en aperçoive, on est déjà ammochati, on dit en italien, un peu ramolli, et que tout finit. Toute la, en fait, le proverbe repose sur des rimanches.
La brioche et una brioche. Sachant que brioche est un mot qu'on utilise dans la langue italienne.
Italienne, totalement, pour dire des viennoiseries.
Pour dire des viennoiseries, très bien, merci beaucoup. Et puis une petite annonce concernant les secrets du goût. Vous savez, c'est la conférence-événement dont je vous parlais dimanche dernier et que j'aurai le plaisir d'animer le mardi 5 avril à 20h en compagnie du neurobiologiste Gabriel Lépouzé, de la chef étoilée Stéphanie Lequelec et de notre chroniqueur 20, Jérôme Gagnès. Le studio 104 de la Maison de la Radio est totalement complet, mais il reste des places dans les 154 cinémas à travers toute la France qui retransmettront en direct cette conférence interactive. On vous a indiqué le lien de la billetterie sur franceinter.fr à la page On va déguster. De la brioche, on passe à la Madeleine dans un instant, puisqu'on se met à table avec Proust. Derrière la vitre de la régie, Laurent Thomas, Tiffany Battistel, Nadia Chougui, Albin de la Simone et Yaël Naïm avec la chanson Tinassi Lee, c'est le choix de Djoubaka. Excellent dimanche et bon appétit sur France Inter.
Bien Bien sûr, si c'était à refaire, je le referais maintes fois. Si encore je faisais l'affaire, si encore tu voulais de moi.
Bien sûr, si c'était à refaire, je le ferais évidemment. Le cœur et la raison diffèrent, mon amour, mon poison violent.
Tenacity, tenacity.
Nous n'avons pas connu la guerre, les tranchées dans l'appartement. Pour cela, j'étais bien trop fière. La mort frappait finalement.
Si nous avons croisé le fer, c'est dans le coton seulement. Mais mon amour, tu le vois rouge se faire que je voulais blanc.
Tenacity, tenacity, tenacity.
Bien sûr, si c'était à refaire, je le referais autrement.
Bon, j'y crois, enfin j'espère, j'espère y croire ou je me mens.
Mais pas de retour à la terre, un tulle que je voulais blanc.
Tu viens d'arracher ma robe et veux me perdre dans les champs.
Tenacity, 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 tenacity.
Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petite Madeleine, qui semblait avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de Madeleine. On sait le choc gustatif qui s'en est suivi, évidemment, mais pouvez-vous, Stéphane Saulier, nous resituer dans le monument de Proust, hein, qui est à la recherche du temps perdu, sa grande œuvre. Cette fameuse expérience de la Madeleine, elle est fondatrice.
Elle est fondatrice, on peut même dire qu'elle est structurante de toute l'architecture de la recherche du temps perdu. En fait, elle intervient au tout début, donc dans le premier volume, hein, du côté de chez Swann, qui est une des deux pièces maîtresses en fait du cycle, l'autre étant le dernier volume, Le Temps Retrouvé. Et la première partie donc s'ouvre sur une évocation d'un monde à jamais perdu, ce monde de l'enfance. Le narrateur se réveille en pleine nuit et toutes les chambres où il a dormi dans son enfance affluent, le souvenir afflue, et en particulier celle de Combray, et où il attendait le soir que sa mère vienne l'aider à dormir. Donc c'est ce fameux drame du coucher.
Avec un certain traumatisme, hein. Il avait peur globalement d'être sans sa maman pour s'endormir.
Exactement, et donc l'expérience de la Madeleine, par le phénomène de la mémoire involontaire, provoque ce plaisir et cette recherche de l'origine du plaisir. Pourquoi je disais que c'était structurant? Parce qu'en fait, dans le dernier volume, donc dans Le Temps Retrouvé, on va avoir à nouveau une expérience sensorielle qui sera pas forcément gustative, mais qui fait pendant à l'épisode de la Madeleine, puisque c'est la matinée chez la princesse de Guermantes qui clôt la recherche. Et dans la cour de l'hôtel de Guermantes, le narrateur bute sur des pavés qui lui font se rappeler un épisode à Venise, les pavés de la place Saint-Marc. Il monte dans l'appartement de la princesse de Guermantes. Il est confronté à une autre sensation, cette fois, c'est le toucher tactile, disons, la sensation tactile d'une serviette empesée et le bruit d'une cuillère qui lui rappelle le grand hôtel à Balbec.
La boucle est bouclée.
La boucle est bouclée. En fait, il se rend compte, ce qui est important, c'est qu'il comprend que le rapprochement presque supratemporel de ces sensations lui permet d'atteindre ce qu'elles ont d'immatériel, etc. Et donc, avec la mémoire involontaire, tout au long de son expérience, en fait, lui sont adressés des signes de sa vocation d'écrivain. Et donc, toutes ces sensations créent la vocation de l'écrivain en devenir.
C'est ça. Donc c'est vraiment, comme vous le dites, une expérience fondatrice. Il y a eu de nombreuses interprétations littéraires. Hein. C'est l'un des passages de notre littérature les plus connus. Il y a même eu des interprétations, alors plus ou moins sérieuses, mais certaines sans doute, psychanalytiques de cette Madeleine, en un mot.
Oui, effectivement. La Madeleine a titillé un petit peu les interprétations, et plus ou moins sérieuses, quand même les plus sérieuses étant celles de Philippe Lejeune, Dubrovski, et je garde, moi, celle de Julia Kristeva, qui avait associé cet épisode apparemment innocent à une atmosphère de désir incestueux. Julia Kristeva s'appuie notamment sur la résonance entre la Madeleine, le petit gâteau, et le prénom Madeleine. Et en fait, le prénom Madeleine apparaît dans l'œuvre, dans la vie de Proust, à deux reprises. Madeleine qui fait allusion à des personnages littéraires féminins. La première, Madeleine Blanchet, est une héroïne de François Le Champy. François Le Champy, œuvre de Georges Sand, pardon, qui était une des lectures préférées du narrateur dans son enfance, lue par sa mère. Et l'autre personnage, un personnage littéraire, cette fois d'une nouvelle de Proust lui-même, l'Indifférent, une héroïne qui a pour point commun avec la Madeleine de François Le Champy d'être des femmes plus âgées, amoureuses de jeunes hommes.
Ah, donc la Madeleine n'est pas seulement un biscuit, c'est aussi des figures féminines auxquelles l'inconscient du petit Marcel se réfère. Il est dit aussi dans certaines interprétations que la Madeleine aurait une symbolique, une représentation sexuelle.
Sexuelle, oui, le sexe féminin.
Pour une Madeleine.
Pour une Madeleine.
Moi, j'aurais dit à la limite... avec le côté un peu bossu, peut-être la métaphore d'un téton ou d'un je ne sais pas.
Ça
mais
me
alors...
regarde.
Ça me regarde. Mais j'avoue que je ne voyais pas forcément ce que l'on peut imaginer dans ce gâteau Madeleine. En tout cas, en parlant de Madeleine bossu, et ben comme par miracle, on a de superbes Madeleines qui ont atterri sur le plateau dont on va déguster. C'est pour moi une recette parfaite parce que c'est celle de Fabrice Le Bourda. On l'avait reçu il y a quelques années. Il est professeur à l'école Médéric à Paris et c'est l'ancien chef pâtissier de Blé Sucré, une boulangerie pâtisserie de Paris, qui propose une Madeleine vraiment parfaite sous tout rapport, y compris dans ses formes généreuses et plantureuses. C'est une recette qu'on pratique dans l'émission depuis un moment, qui figure d'ailleurs dans notre livre « On va déguster la France ». On a demandé au petit Thomas Darcos, qui travaille avec nous depuis quelques temps dans l'émission, qui a une formation de cuisinier, qui est tout jeune. Quel âge, Thomas ?
J'ai 22 ans.
Et c'est vous qui avez tout simplement expérimenté ces madeleines. Ça s'est bien passé, visiblement.
Exactement, ça s'est très très bien passé. La recette est vraiment très simple.
Alors, l'expérience... en gros, il y a les ingrédients un peu classiques.
Oui.
Il y a du beurre...
Du beurre, du sucre...
Farine.
Du lait, de la farine, un peu de levure.
C'est ça.
Vraiment très simple. Alors, on mélange juste les œufs et le sucre. On rajoute le lait, la farine et la levure. On mélange le tout, on ajoute ensuite le beurre fondu. On laisse reposer, ça c'est un peu important, on laisse reposer au frigo. Elle va un peu figer, c'est plus facile déjà pour la mettre dans le moule. Et puis ça va lui donner une bonne texture. Et ensuite on met dans le moule et on cuit. Deuxième petit point technique, la température du four, 210 degrés. Après à vous, si vous connaissez un peu votre four, à ajuster la température chez vous. Mais ça c'est vraiment important. Ça vient permettre de cristalliser le tour de la madeleine, laisser le cœur fondant et permettre le développement de la bosse.
C'est ça, le développement de la bosse, ça c'est la caractéristique, le trait caractéristique de cette madeleine. J'ai la bouche pleine, je suis désolé.
Nous, ça fonctionne, le cœur est frais, léger et frais. Ça reste assez aérien.
Beurré, je dirais. Très beurré.
Elle est bien beurrée.
Elle est bien beurrée.
Trop exactement. Vous dites, ah, je sens maintenant.
C'est jamais trop beurré une madeleine. Mais en revanche, je trouve qu'il y a un côté où la coque est pas très croustillante et pas très prononcée.
Oui.
On va dire que c'est une madeleine moelleuse.
C'est une madeleine moelleuse. Alors, il y a un petit truc aussi qu'on aurait dû faire, parce que c'est dans la recette originelle de Fabrice Le Bourda, c'est ce petit glaçage à l'orange qui apporte une petite coque croustillante, justement.
Exactement, ça tout à fait. On vient mélanger du sucre glace avec un jus. Donc là, en l'occurrence, de l'orange. Après, à vous de vouloir twister votre madeleine avec n'importe quel jus. Ça vient apporter un petit côté croustillant et surtout, ça vient donner un petit côté un peu avec un fruit. Donc là, en l'occurrence, de l'orange. Et c'est vraiment très bon.
Et c'est pour ça que vous l'avez pas fait.
C'est pour ça que je l'ai pas fait, moi, malheureusement.
Bon, elles sont quand même très bonnes, Thomas. On vous remercie beaucoup pour vous être prêté à cette expérience. Revenons, évidemment. Alors, parce qu'on s'est bien dit que L'œuvre de Proust ne devait pas se limiter évidemment à cette expérience de la Madeleine, la représentation de la nourriture est particulièrement copieuse hein, dans cette œuvre. Dans un excellent article que le journaliste écrivain Sébastien Lapac consacre à Proust dans le numéro de la revue des Deux Mondes daté de juillet-août 2019, écoutez, Lapac écrit « À la recherche du temps perdu, se lit tour à tour comme le Bottin gourmand, le traité de la vie élégante, une histoire de la sensibilité musicale, un guide touristique de l'ouest de la France, un manuel de psychopathologie clinique, mais on peut aussi lire à la recherche du temps perdu comme un livre de cuisine. » Et il ajoute, la cuisine pour Marcel Proust, c'est non seulement une formidable machine à remonter le temps, on l'a vu avec vous, Stéphane Solier, mais c'est aussi la porte la plus immédiate dans le monde sensible. Vous en pensez quoi ?
Ah ben, on peut voir que effectivement, les odeurs comestibles et les mets savoureux qui abondent dans toute l'œuvre de Proust nous introduisent dans un univers de la gourmandise qui témoigne de l'importance que prend dans l'œuvre de Proust tout ce qui a trait à une chose aussi quotidienne que la nourriture. Les repas sont très présents et ce qui est intéressant,
beaucoup de références alimentaires, culinaires, gastronomiques dans toute l'œuvre. Hein.
Dans toute l'œuvre, alors plus on va vers la fin du cycle, moins elles sont présentes, mais on a quand même des occurrences très très précises. Hein. Les repas apparaissent à tout point de vue comme les repères les plus importants du découpage du temps pour les personnages de la recherche. C'est d'abord la joie du petit déjeuner, donc le goût clair et chaud du café au lait qui est cité dans Jean Santeuil, pardon, première œuvre avant le cycle de la recherche, qui cristallise pour lui tous les espoirs de la journée. On a les goûters. Les après-midi sont coupés par des goûters que l'on prend au bord de la Vivonne, les premiers goûters avec Gilberte, la première fiancée du narrateur, qui lui laisse une si profonde impression. Le repas du soir est une sorte d'institution sociale qui permet d'agglomérer, de donner une sorte de sens de communauté sociale aux gens qui y participent, notamment dans les clans, les dîners de la duchesse de Guermantes. Tous les plats, tous les menus sont évoqués. Proust n'hésite pas à nous donner le détail très concret.
Là, pour le coup, il y a beaucoup, effectivement, de descriptions. D'ailleurs, l'œuvre de Proust a une vraie valeur documentaire sur certaines habitudes alimentaires ou gastronomiques qu'on avait dans la bourgeoisie ou l'aristocratie au temps de la Belle Époque. On y découvre, alors on va voir avec Manon le nom d'une certaine salade, mais on y découvre le riz à l'impératrice, les crèmes au chocolat, une simple salade de pommes de terre, du temps retrouvé, hein. Oui. Il y a également la bouillabaisse dans Sodome et Gomorre, il y a la glace à la vanille des Guermantes. On retrouve comme ça vraiment, c'est une peinture alimentaire de l'époque.
Et puis une peinture très très précise, parce qu'en fait, si on veut dresser un répertoire des plats que cite Proust, toutes les rubriques d'un livre de cuisine y sont représentées. Les hors-d'œuvre, les plats de résistance, les desserts extrêmement riches qui vont des fruits jusqu'aux pâtisseries les plus complexes, avec des puddings architecturaux incroyables. D'ailleurs, il n'hésite pas même à donner à numérer des menus entiers, notamment le menu de Françoise, où on trouve.
C'est la cuisinière à Paris, hein, Françoise.
Françoise, c'est la cuisinière de la recherche, hein, qui est une sorte de synthèse de toutes les domestiques qu'a connu Proust dans sa vie. Et il parle donne tout le détail du menu de Françoise, en allant de la barbue qui est frite jusqu'au cardon à la moelle, en passant par un gigot rôti, en arrivant au framboise que Monsieur Swann avait apporté exprès, des cerises, etc.
On est vraiment dans l'atmosphère, la cuisine bourgeoise telle qu'elle était pratiquée à Paris à cette époque. Et on voit donc que j'ai presque envie de dire que Proust était un entomologiste de la cuisine avec une précision infaillible. Il décrivait vraiment les mœurs culinaires, gastronomique de son époque, il était vraiment connaisseur.
C'est un grand connaisseur. Effectivement, il avait une grande connaissance, une réelle connaissance de la cuisine. Dès le début de la recherche, la cuisine intervient avec l'apparition de Charles Swann, et la grande tante du narrateur demande à Swann, au personnage de Swann, la recette de la sauce gribiche, de la salade à l'ananas. On sert à Monsieur de Norpois une salade d'ananas et de truffes, un soufflé, un pudding à la Nesselrode. Rhodes. Il a une très bonne connaissance des spécialités régionales aussi. Les rillettes de Tours, les biscuits de Reims, les galettes et les feuilletés normands. Vous avez parlé de la bouillabaisse dans Sodome et Gomorre. Bref, il y a tout un pan comme ça de connaissances extrêmement précises et érudites sur la cuisine de son temps. Sont même cités des magasins d'alimentation et de pâtisserie. Et il est fort possible que ce soit des fournisseurs de l'auteur lui-même.
C'est ça. Alors, on va voir justement la différence un peu entre, évidemment, Proust, le narrateur, Proust, l'homme dans la vie. Était-il aussi gourmand et gourmet qu'il le laisse apparaître dans son œuvre? Ça, on va en discuter un peu plus tard. Mais attardons-nous à une forme de dandisme culinaire qui développe dans son œuvre. De par son rang social, le narrateur développe vraiment des goûts aristocratiques. On va le voir. On perçoit d'ailleurs, dans pas mal de ses descriptions, un certain élitisme alimentaire. Et notamment, dans un extrait que je voudrais vous faire entendre. Nous sommes dans le deuxième volume. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, le narrateur Marcel, alors adolescent, organise un pique-nique à Balbec. Balbec, c'est quelque part en Normandie, hein. C'est une station balnéaire un peu imaginaire.
C'est une ville imaginaire, définie comme une station balnéaire, grosso modo inspirée de Cabourg ou d'une petite autre station, cette fois plutôt dans le Finistère, Begmail.
Le jeune Marcel invite des jeunes filles des environs pour un pique-nique. Et qu'est-ce qu'il y a au menu de ce déjeuner sur l'herbe?
Je faisais préparer des sandwichs au Chester et à la salade et acheter des tartes que je mangerais à l'heure du goûter sur la falaise avec ces jeunes filles qui auraient bien pu payer à tour de rôle si elles n'avaient été aussi intéressées. Déclarait Françoise, au secours de qui venait alors tout un atavisme de rapacité et de vulgarité provinciale. Le veston retrouvé et les sandwichs prêts, j'allais chercher Albertine, André, Rosemonde, d'autres parfois, et à pied ou en bicyclette, nous partions. Nous montions jusqu'au haut de la falaise et une fois arrivés et assis sur l'herbe, nous défaisions notre paquet de sandwichs et de gâteaux. Mes amis préféraient les sandwichs et s'étonnaient de me voir manger seulement un gâteau au chocolat, gothiquement historié de sucre ou une tarte à l'abricot. C'est qu'avec les sandwichs au Chester et à la salade, nourriture ignorante et nouvelle, je n'avais rien à dire. Mais les gâteaux étaient instruits, les tartes étaient bavardes. Il y avait dans les premiers des fadeurs de crème et dans les secondes des fraîcheurs de fruits qui en savaient long sur Combray, sur Gilberte. Non seulement la Gilberte de Combray, mais celle de Paris au goûter de qui je les avais retrouvés.
Les gâteaux étaient instruits, les tartes étaient bavardes. Faut quand même le faire, cette personnification des aliments.
Oui, très belle personnification, effectivement. Et l'on voit là aussi encore le lien avec le passé. Pourquoi y a-t-il ces différences de goût entre les protagonistes? Le narrateur s'explique par le fait que le souvenir de Gilberte lui revient avec des gâteaux, comme avec la Madeleine. Donc évidemment, il y a ce lien-là avec le passé. Mais cette préférence pour les gâteaux témoigne aussi des pratiques alimentaires de sa famille dont il hérite des goûts. Les tartes aux abricots, les gros gâteaux au chocolat qu'il préfère au sandwich, et marque une forme de provincialisme à laquelle il reste sensible et qui le fait apprécier et être apprécié des aristocrates qui sont liés, plus liés à la terre que les bourgeois. Ah. Ce goût pour les sandwichs...
On sent un certain dédain de
mode. Oui, c'est une mode un peu anglomaniaque de l'époque.
Et pourtant, c'était vraiment la nourriture de l'aristocratie de l'époque, hein. Les sandwichs, on disait sandwich, d'ailleurs, sans l'accent anglais.
Oui.
Qui avait traversé la Manche, et c'était effectivement
Mais c'est une mode. Et comme toute mode, en fait, elle est sentie comme une sorte de snobisme des petits bourgeois et un esprit petit bourgeois qui l'oppose à une sorte d'aristocratie, de province.
C'est ça. On va voir si une certaine salade était aussi relevée d'un certain dandysme alimentaire, était aussi une mode. Oui, qu'est-ce qui a inspiré notre chroniqueuse chef Manon Fleury dans l'œuvre de Proust? On sait que c'est une salade, on n'en connaît pas encore vraiment l'identité. Eh ben, réponse tout de suite.
On va déguster. Sur France Inter.
J'ai voulu vous parler d'une salade japonaise. Alors après Luba, vous allez croire que je fais un peu une obsession avec le Japon. Mais cette salade m'a vraiment plu. Elle est évoquée dans Du côté de chez Swann. Mm-hmm. Et plus précisément dans la deuxième partie Du côté de chez Swann, Un amour de Swann. Elle est tirée, donc je l'ai trouvée dans un livre de recettes qui a tiré les recettes qu'on trouve dans l'œuvre de Proust.
On peut le citer d'ailleurs. Hein, c'est
exactement. Proust, La cuisine retrouvée, de Jean-Bernard Naudin, Anne Borel et le chef Alain Sandérins.
Aux éditions du Chêne, il n'est pas tout récent, mais alors c'est une vraie référence. Hein.
Ouais, il est magnifique. Cette salade japonaise est en fait donc plus connue chez Alexandre Dumas, sous le nom d'une salade qui s'appelait la salade Francillon, qu'il décrit dans son œuvre, enfin dans sa pièce éponyme Francillon. Il s'agit en réalité donc d'une salade de pommes de terre à base de crône, moule, truffe et herbe. Il faut savoir que, donc, que Proust semble avoir donc un penchant pour la pomme de terre. Vous avez dit tout à l'heure qu'on on retrouvait une salade de pommes de terre dans Le Temps retrouvé, où les pommes de terre, j'ai trouvé ça magnifique, sont comparées à des boutons d'ivoire japonais. On pense à la couleur, évidemment, de la pomme de terre. Donc Proust, en plus de son goût pour la pomme de terre, avait visiblement quand même une inclinaison pour le Japon. Et le fait que cette salade japonaise ne trouve aucun ingrédient japonais, vous voyez bien, entre la truffe, les herbes, les pommes de terre, les crônes, qui, vous l'avez traité dans votre chronique samedi dernier, François-Régis, étaient considérés à l'époque sans doute comme des légumes d'origine japonaise, étaient en réalité originaires de Chine.
Exactement.
Et donc j'ai pensé au fait, je me suis dit mais pourquoi il a appelé cette salade japonaise et je suis allée chercher dans le fait, je me suis dit peut-être que c'est lié au fait que les moules dans la recette soient déglacées au château Yquem.
Très bien.
Exactement.
Grand sauteur.
On a les moyens pour faire déglacer ces moules au château Yquem.
Exactement. Et que cela apportait un côté aigre-doux à la recette.
Qui vous fait ressembler à un mirin ou un saké de cuisine.
Ce qui est le cas. Mais en fait, en allant chercher plus loin, je me suis aperçue que ça était plutôt lié à l'attrait mondain qu'avait justement l'époque pour tout ce qui était nippon et qui n'était pas en lien direct avec le fait qu'on aurait utilisé des ingrédients japonais dans la recette. Donc cette salade a sans doute été appelée japonaise car le japonisme était à la mode dans les cercles mondains que décrivait Proust à l'époque.
Très bien.
Et donc pour réaliser cette salade, bien
qu'est-ce
sûr,
qu'elle est bonne. Moi, je l'ai déjà à moitié mangée avec une pomme de terre bien fondante. Je tiens à prévenir nos auditeurs.
J'ai un peu dévié parce que vous savez bien que les cuisiniers en général ont du mal à se tenir à la recette classique.
Surtout vous, Manon.
De s'approprier la recette. Donc j'ai enlevé les crônes. J'ai enlevé la truffe, parce que vous savez que j'utilise pas beaucoup de truffes. J'aime bien utiliser des ingrédients qu'on trouve plus facilement, hein, qui sont sans doute plus accessibles. J'ai gardé la pomme de terre comme base. Et on sait que la pomme de terre est totalement de saison, on en trouve encore. Et je l'ai associée à d'autres produits de saison. J'ai essayé de trouver des moules, et en fait, il n'y avait pas de moules. C'est pas la saison, c'est encore... ça va venir dans un mois. Je les ai remplacées par des palourdes.
Oui.
Qui ont c'est une connotation japonaise, parce qu'on sait que la majorité des variétés de palourdes viennent du Japon.
Absolument.
Et ce qui m'a plu dans cette recette, c'est le principe de venir assaisonner la pomme de terre avec une vinaigrette, donc un vinaigre de vin. Alors dans la recette classique,
il vous reste du
Yquem
ou pas du tout, non ?
Non. Alors c'est pareil. Je me suis dit que la plupart des gens n'avaient pas de château Yquem dans leur cave ou dans leur frigo, donc j'ai utilisé un vin blanc classique. Et donc,
mais pas un vin doux, hein.
Non,
alors, un vin sec.
Vous pouvez utiliser un vin doux et justement ça va vous apporter ce côté aigre-doux, intéressant et qui peut être très chouette. Moi je l'ai déglacé avec un vin du domaine de chez Moss qu'on m'a proposé chez mon caviste, qui est spécial pour la cuisine, qui a été une cuvée faite spéciale pour la cuisine.
De l'Anjou.
Exactement.
Absolument, Dominique.
Et donc, pour reprendre le cours de la recette, donc vous cuisez vos pommes de terre environ 25 minutes à l'eau bouillante. Vous pouvez aussi les cuire dans un fond d'eau après les avoir épluchées et coupées en morceaux et en palets, ce que m'avait suggéré Stéphane au début de l'émission. Et c'est dans la recette classique. Moi, je les ai cuits dans un fond d'eau, dans l'eau, et après je les ai épluchées. Vous les mettez dans la vinaigrette. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans cette recette, c'est de les plonger dans la vinaigrette. Et ensuite, vous allez ouvrir vos coquillages, donc que ce soit des palourdes, que ce soit des coques, que ce soit des moules, et vous allez récupérer ce jus de cuisson avec le jus de coquillage et de vin blanc et vous allez mettre vos pommes de terre que vous avez roulées dans la vinaigrette dans le jus de cuisson et vous allez faire refroidir le tout pour manger cette salade froide. Moi, je suggérerais
aussi... Le jus des coquillages va saler aussi, la pomme de terre.
Oui, va saler. Vous n'avez pas besoin de beaucoup saler. Je vous suggérerais de la manger même presque tiède. J'aime bien le côté tiède. Mais évidemment, vous pouvez la préparer la veille, ça c'est intéressant, et la déguster froide.
Mais il y a une autre dimension, pardon, mais la place que prend l'huile d'olive et notamment la fine amertume qui vient un peu structurer le plat, c'est loin d'être anodin. C'est ça le lien, finalement, un peu.
C'est ça le lien, le côté vinaigrette associée au jus de cuisson du coquillage.
Et de belles herbes fraîches.
un peu de persil, de ciboulette et d'ail des ours.
Elles sont l'ail des ours, les petites notes à la fois herbacées.
Les premières feuilles,
il faut
célébrer le printemps. C'est demain.
Ça, absolument. C'est vraiment le début du printemps, l'ail des ours. Hein. Et on m'a dit qu'il était très en avance encore cette année, ce qui est presque un peu inquiétant en réalité. Mais oui. En tout cas, c'est formidable cette recette avec ces pommes de terre qui sont fondantes et particulièrement sucrées. C'est quoi la variété ?
Charlotte.
Ah oui, voilà. Ouais. Vous aimez ?
Ah, moi j'ai adoré. Juste pour revenir, la salade japonaise, le japonisme sert aussi à Proust pour dénoncer un petit peu le snobisme de ces sociétés qu'il décortique. Et il y a toute une discussion en fait sur le fait que les personnages du repas autour d'Odette de Crécy n'ont pas vu cette pièce Francillon d'Alexandre Dumas fils. Et tout tourne autour d'un pseudo mystère de cette recette dont on ne sait jamais, dont on ne sait jamais de quoi elle est composée si on ne lit pas ou si on ne va pas voir la pièce Francillon.
D'accord, donc c'est une véritable enquête que vous avez menée, Manon Fleury. Un grand merci. On peut renvoyer nos auditeurs évidemment à ce célèbre
détails.
Passage de l'œuvre de Proust. On continue dans un instant à explorer l'œuvre et la vie de Proust par le prisme de la cuisine et de la gastronomie.
Funny girl, you look so unassuming, right up until the room you're captivating starts to fill with gut-busting laughter. You're transformed into a five-foot Cleopatra. Funny girl, your schedule's pretty crazy, doing interviews for the new live action Kathy. Could you pencil in an industry outside? Funny
Funny Girl de l'américain Father John Misty pour bercer cette émission entièrement consacrée à la nourriture dans l'œuvre et la vie de Proust.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
Dominique Hutin, ça se bouscule au portillon de nos réseaux sociaux.
Des réactions, oui, effectivement, et notamment une assez inattendue qui nous vient de Suède. Alors, je vais le dire bien moins bien qu'Elvira, forcément, mais c'est Anne Bernstein qui nous dit « Marcel Proust et gastronomie, c'est exactement le thème de notre restaurant français,
ça,
ici.
Alors »
Alors là, c'est suédois, vous me pardonnerez, Vasteras, on va le prendre comme ça,
avec
en
un
Suède.
Accent très mauvais, j'en suis sûr.
Voilà, et ça s'appelle Marcel P.
Marcel
le nom de ce restaurant, c'est singulier.
En Suède, le restaurant Marcel P entièrement consacré à la gastronomie de Proust. Quelle découverte!
Et puis, les anciens élèves de l'école hôtelière de Toulouse, donc j'imagine que c'est une association, qui nous invite à nous intéresser aux travaux universitaires de Gilles Galasso, meilleur ouvrier de France. Voilà, champion du monde des maîtres d'hôtel, et qui apparemment s'est amusé, on retrouvera un autre terme une autre fois, pour reconstituer le grand hôtel de Cabourg, qui justement faisait allusion à Balbec, que vous avez cité tout à l'heure,
ouais.
Stéphane. Voilà,
parfait.
Donc il y a une référence qu'on mettra peut-être sur le site, plus que tout ça, et richement documentée.
Avec plaisir, merci cher Dominique. Venons-en à présent au goût certain de Marcel Proust dans sa prose pour les métaphores culinaires. Beaucoup de métaphores, d'images culinaires dans toute son œuvre. Je vous propose un extrait qui est vraiment, pour le coup, très démonstratif en la matière. Un extrait qui se situe cette fois-ci dans Du côté de chez Swann, le premier volume de La Recherche. Le fameux passage de la chambre de Léonie. Le narrateur décrit en fait l'antichambre où il attendait avant de pouvoir entrer chez sa tante Léonie dans la maison de famille à Combray. Et vous allez sentir comment le petit Marcel appréhende son monde intime à travers les odeurs et les saveurs.
L'air y était saturé de la fine fleur d'un silence si nourricier, si succulent, que je ne m'y avançais qu'avec une sorte de gourmandise, surtout par ces premiers matins encore froids de la semaine de Pâques, où je le goûtais mieux parce que je venais seulement d'arriver à Combray. Avant que j'entrasse souhaiter le bonjour à ma tante, on me faisait attendre un instant dans la première pièce, où le soleil, d'hiver encore, était venu se mettre au chaud devant le feu déjà allumé. Je faisais quelques pas du prie-Dieu au fauteuil en velours frappé, toujours revêtu d'un appui-tête au crochet, et le feu, cuisant comme une pâte les appétissantes odeurs dont l'air de la chambre était tout grumeleux et qu'avait fait déjà travailler et lever la fraîcheur humide et ensoleillée du matin, il les feuilletait, les dorait, les godait, les boursouflait en faisant un invisible et palpable gâteau provincial, un immense chausson où, à peine goûtés les arômes plus croustillants, plus fins, plus réputés, mais plus secs aussi, du placard, de la commode, du papier à ramage, je revenais toujours avec une convoitise inavouée, m'engluer dans l'odeur médiane, poisseuse, fade, indigeste et fruitée du couvre-lit à fleurs.
Proust, dans le texte, et signalons quand même à nos éditeurs que ce passage qui fait sur ma fiche environ 17 lignes hein, est constitué d'une seule phrase. Pas un seul point dans ce texte.
Et oui, donc le style typique de Proust à travers de très très jolies synesthésies et métaphores.
Oula, vous employez un mot. Synesthésie. Définition de synesthésie.
Alors je parlerai pas de la synesthésie en termes neurologiques, mais de la synesthésie littéraire, c'est-à-dire en fait l'appréhension du réel par un croisement de sensations qui s'associent pour révéler toute la complexité de ce réel.
Ah oui, là, quand il prête par exemple au couvre-lit à fleurs une odeur médiane, poisseuse, fade, indigeste et fruitée, ça c'est de la synesthésie.
Et voilà, le couvre-lit est vu et goûté et senti en même temps. Vous avez d'autres dans le texte, hein, les odeurs qui deviennent appétissantes, l'air de la chambre qui lève comme une brioche. Donc on a vraiment ici tout un univers qui est perçu par le palais du narrateur et de l'auteur.
Et dans ces métaphores culinaires, Stéphane Solier, on observe un rapprochement permanent, quasi obsessionnel, entre la cuisine et l'art. Autant dire qu'il considère la cuisine comme un art avec toutes les métaphores qui accompagnent ce parallélisme.
Oui, dans toute l'œuvre, vous avez une attention, une presque une obsession de Proust d'associer la cuisine à l'art, à tous les arts. On parle bien sûr de peinture, de musique, de sculpture. On a beaucoup d'exemples comme ça où Proust a été hypersensible à l'aspect artistique de la cuisine. La technique du cuisinier devient un exercice d'un art. Proust insiste en de nombreux endroits sur le caractère artiste du cuisinier, sculpteur ou musicien. On a Françoise qui est comparée à une cantatrice. On a des sorbets qui sont comparés à des architectures, à des monuments.
Proust compare aussi le jambon d'York, qui est très à la mode à l'époque, à du marbre rose. Le gâteau au chocolat de Gilbert, ce sont les bastions du palais de Darius. Il y a même une brioche qui devient un clocher avec ce côté un peu, comment dire, des allusions très sexuelles, disons-le clairement. Souvent, Proust prend des objets qui sont quand même un peu de forme phallique, durs, dressés, avec toutes les métaphores, toutes les allusions qui accompagnent ces descriptions.
Oui, tout à fait. Vous avez effectivement une lecture encore une fois figuré de ces comparaisons et de ces métaphores qui nourrissent tout un imaginaire lié à la sexualité et à la sensualité, puisque la cuisine est liée à la sensualité chez Proust.
Et le lien entre cuisine et art, vous allez le voir, est particulièrement manifeste dans un autre passage que je voudrais vous faire goûter. On est dans le deuxième volume de La Recherche, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Alors ce volume commence à Paris, hein, c'est ça, c'est là où on découvre, Stéphane Solier, la vie du narrateur en fait. Hein.
Oui, tout à fait, c'est dans l'intimité de cette famille, dans l'univers parisien.
Le père de Marcel a invité Monsieur de Norpois à dîner. On entre, vous allez voir, dans les coulisses de la préparation, là aussi d'un des plats mythiques évoqués par Proust, le fameux bœuf en gelée.
Depuis la veille, Françoise, heureuse de s'adonner à cet art de la cuisine pour lequel elle avait certainement un don, stimulée d'ailleurs par l'annonce d'un convive nouveau et sachant qu'elle aurait à composer selon des méthodes sues d'elle seule du bœuf à la gelée, vivait dans l'effervescence de la création, Comme elle attachait une importance extrême à la qualité intrinsèque des matériaux qui devaient entrer dans la fabrication de son œuvre, elle allait elle-même aux Halles se faire donner les plus beaux carrés de rhum steak, de jarret de bœuf, de pied de veau, comme Michel-Ange passant 8 mois dans les montagnes de Carrare à choisir les blocs de marbre les plus parfaits pour le monument de Jules II. Le bœuf, froid aux carottes, fit son apparition, couché par le Michel-Ange de notre cuisine sur d'énormes cristaux de gelée, pareils à des blocs de quartz transparents. « Vous avez un chef de tout premier ordre, madame, » dit Monsieur de Norpois. « Voilà ce qu'on ne peut obtenir au cabaret, et je dis dans les meilleurs, une daube de bœuf où la gelée ne sente pas la colle et où le bœuf ait pris le parfum des carottes. C'est admirable, permettez-moi d'y revenir. » ajouta-t-il en faisant signe qu'il voulait encore de la gelée. « Je serais curieux de juger votre vatel, maintenant, sur un mets tout différent. Je voudrais, par exemple, le trouver aux prises avec le bœuf stroganoff. »« Mais enfin, » lui demanda ma mère, « comment expliquez-vous que personne ne fasse la gelée aussi bien que vous, quand vous le voulez ?»« Je ne sais pas d'où ce que ça devient, » répondit Françoise, qui n'établissait pas une démarcation bien nette entre le verbe « venir », au moins pris dans certaines acceptions, et le verbe « devenir ».« Ils font cuire trop à la va-vite », répondit-elle en parlant des grands restaurateurs. « Et puis, pas tout ensemble. Il faut que le bœuf, il devienne comme une éponge. Alors, il boit tout le jus, jusqu'au fond. »
Manon est forcément d'accord, il faut laisser le temps de cuire.
Évidemment.
Françoise, le secret de son bœuf en gelée pour qu'il soit aussi tendre, etc., c'est justement qu'il ne faut pas le faire cuire comme les restaurateurs à la va-vite. Il faut prendre le temps. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une connaissance technique aussi quand même de la cuisine chez Marcel Proust. C'est assez édifiant.
Oui, c'est tout un art et c'est vrai que la référence à Michel-Ange qui passait
son temps... Michel-Ange des fourneaux, c'est quand même un sacré compliment
et puis,
pour la
cuisinière. Elle développe cette comparaison, hein, Michel-Ange qui allait chercher son marbre de Carrare avec attention, etc. Donc on a vraiment ici cette idée de la précision, de la minutie de l'art culinaire.
Proust dans le verre. Comment ça se passe, petit élément de réponse avec Stéphane Solier et notre ami Dominique Hutin qui a quelques cartouches à ses côtés.
On va déguster sur France Inter.
Vous prenez quelque chose, un petit armagnac?
Allez chaud.
En plein été, c'est de la folie.
Chacun ses petites folies.
Quelqu'un aurait reconnu cet extrait de film ou pas? Déniché par notre réalisatrice Lorraine Thomas.
Je crois qu'elle nous a piégés.
Le temps retrouvé d'un certain...
Ruiz.
Bravo. Raoul... Oula. Raoul Ruiz.
Ouais, chacun ses petites folies.
Du lait, oui, c'est ça. Non, ça veut dire que globalement, bon, c'est un peu compliqué quand même de considérer Marcel Proust comme un énorme goûteur.
Non, on l'imagine plutôt versant les chauds, comme on l'a entendu.
C'est
oui,
ça.
Ouais, voilà. Ouais, d'autant qu'avec chacun ses petites folies, je pense que vous n'abusez personne. Il y avait un message caché dedans, j'ai bien compris. Folie, c'est l'anagramme de fiole. Voilà. Bandit, vous avez essayé de me vous payer de ma fiole. Eh oui, c'est exactement ça. Alors, si on parle de fiole, tiens, justement. J'ai regardé un petit peu, justement avec la Miss Stéphane que j'ai embêté pour essayer quand même de voir quelles sont celles de ces fioles qui ont rythmé, qui ont égayé un peu l'œuvre de Proust. Et en échangeant, évidemment, alors on a cité Ikem tout à l'heure, hein, qui se situe tout de suite dans l'aristocratie avec ses grands sauternes, ses classés. Mais...
Surtout quand il sert à déglacer des moules.
Oui, voilà les fonds de bouteille, imaginez. Mais on a trouvé aussi du Margaux. Vous m'avez parlé aussi de Château Lafitte.
Lafitte.
Donc ils sont quand même des grands crus qui, déjà à cette époque-là, et depuis longtemps, incarnaient l'aristocratie du vin. Donc on a vraiment quelque chose de bien précis. Alors justement, à propos de Bordeaux, je me suis permis de compléter un petit peu le propos. Avec cette bouteille-ci, qui nous vient de Bordeaux aussi, c'est un château carbonieux, qui est un peu particulière. Je crois qu'elle a un petit lien avec Marcel Proust, parce que c'est un millésime 1922.
Non.
Qui, je crois, a un relief particulier, Stéphane.
Eh oui, c'est l'année de décès de Proust.
Eh oui.
Voilà.
Waouh.
Donc, et c'est un petit peu plus que ça, parce que ce vin est né pendant les vendanges, pendant que Proust meurt, lui aussi, pendant l'automne. Donc, c'est une bouteille qui a traversé le siècle, elle a 100 ans aujourd'hui, je la prends précautionneusement.
Oui.
Je la repose. Elle vient de ma cave personnelle, mais en fait, l'anecdote fait que, elle a appartenu à quelqu'un qui aurait beaucoup plu à Proust aussi, parce que c'était une bouteille qui appartenait à Jean Patou, le parfumeur couturier, voilà, je cherchais le mot, qui lui aussi migrait avec les gens de la haute société, évidemment, à cette époque-là. Donc, une bouteille centenaire, je la laisse se reposer. C'est une vieille personne, elle s'est levée à 5h ce matin, elle a fait 4 heures de croûte, on va la laisser tranquille un tout petit peu. D'autant qu'en sculptant un petit peu plus avant l'œuvre de Proust, on découvre un autre fil rouge, peut-être moins attendu, celui-ci, sur lequel vous m'avez éclairé, là encore, Stéphane. Mais un fil rouge qui est devenu une tendance mondiale extrêmement contemporaine, cette fois, ce sont les bulles. Les bulles, oui. C'est-à-dire les boissons carbonées, qui boissons de fraîcheur, boissons de légèreté, et ça c'est vraiment une tendance très 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 forte. Et cette fois-ci, on bascule dans un autre registre parce que ce sont, alors certes, il y a des champagnes, évidemment, il y a des champagnes, mais pour autant, on trouve un autre périmètre qui est celui du cidre et du bière. allons-y. Donc vous voyez qu'on est quand même sur un registre tout à fait différent, mondain, populaire, mondain, on a vraiment deux aspects extrêmement contrastés. Je vous propose donc une immersion dans un vignoble français qui, à mon sens, est aussi connu que méconnu et que les Français devront un jour quand même se résoudre à accepter comme abritant une somme de pépites de très grands vins, spécialement lorsqu'on parle de la table, c'est le vignoble du Beaujolais. Le vignoble du Beaujolais, souvent on se plaît à l'imaginer uniquement riche de vins qui vont être des vins gouailleurs, voilà, des vins capital sympathie, faciles à appréhender. Or, le Beaujolais, c'est une famille. C'est même une grande famille, c'est une très grande famille. Vous avez les moulins à vent, vous avez les Régnier, les Saint-Amour, les Chénas, les Morgons, les Brouillés, bon, etc., etc. Il y aura une interrogation surprise tout à l'heure.
Je pensais que vous alliez tous nous citer toutes les appellations du Beaujolais.
Je peux vous interroger, mais je pense que vous allez rester sur le bord du chemin.
Oui, c'est vrai. On oublie toujours Saint-Amour ou moulins à vent, vous l'avez dit.
Il y en a un qu'on a l'obligation de citer. C'est le Fleury, uniquement à cause de la présence de Manon. Voilà. Donc, on a dressé ce portrait de famille. C'est quasiment un roman fleuve, puisque j'ai goûté 107 cuvées de 5,50 € à 48 €. Donc, cette seule dimension de prix dit déjà la disparité du vignoble. Toutes ces choses différentes. Pensez-y maintenant. Pour les 18 ans de vos gamins, achetez-les maintenant. On a une succession de 2018, 2019, 2020 de magnifiques millésimes. Et l'autre raison qui m'amène à parler du Beaujolais, je l'ai trouvé chez un auteur qui s'appelle Nicolas de Rabaudy et qui rapporte que pour la recherche du temps perdu, parmi les aristocrates qui ont inspiré Proust, parmi cette faune qu'il croisait au Ritz, par exemple, il s'en est trouvé pour s'appeler les Morgons. Morgon qui, comme par hasard, est un des crus du Beaujolais. Donc ils sont dans vos verres, c'est deux Morgons, j'en ai amené deux. C'est Migaudard, une vigneronne que je vous invite vraiment à suivre, qui fait des vins déliés qui sont assez formidables. Et puis un autre domaine qui s'appelle Louis-Claude Desvignes, avec des vins tout petit peu plus structurés. Mais là encore, on a des vins d'une très grande longueur, c'est de la couture, c'est de la haute couture même. Allez-y, consultez ce carnet, vous allez trouver toute une somme de ressorts.
C'est lequel le mien, parce que je le trouve délicieux.
Ça c'est Migaudard. Justement. D'accord. C'est un Morgon Corselette 2020.
Waouh.
Alors d'ailleurs.
Quel prix?
Je l'ai pas en tête, j'ai pas les 107 prix en tête.
Ce qui est bien avec les Beaujolais, c'est qu'en général.
Le spectre est vraiment large.
On pousse pas trop sur le tarif.
Ça dépend. On a vraiment des vins à 5,50 et d'autres à 48. Là, je pense qu'on est dans les 20 €.
D'accord.
Pour ceci, c'était le haut du panier en termes de dégustation. Il y a beaucoup d'autres coups de cœur, vous le verrez. J'ai goûté, par exemple, des 1934. Qui ramenait les Grands Bourgognes à l'état d'aimable vin rouge. Donc ça se garde extrêmement bien. Et puis la dernière raison pour vous parler du Beaujolais, c'est que simplement, bientôt, c'est bien boire en Beaujolais. C'est une réunion, certes, de cavistes professionnels, etc., mais ce sont les vins que vous allez retrouver dans vos caves, sur les tables des restos. Ça, c'est tout début avril, 3-4 avril. Et ce sont ces vins que vous allez retrouver donc en exclusivité avant les cavistes, avant les restaurateurs qui ne les ont pas encore goûtés. Ils sont sur notre carnet de dégustation grâce à Nadia Chougui qui les a mis en ligne ce matin.
Carnet de dégustation signé Dominique Hutin qui s'économise tout le temps. Hein. Je pense qu'il... Combien de cuvées?
107.
Oh là là,
tout recraché. 107,
tout recraché, évidemment. Le Beaujolais avec modération, on est d'accord. Hein.
Voilà.
On parlait évidemment de la figure de Proust. Merci Dominique. Gourmand, gourmet, les spécialistes, les biographes de Proust se disputent un peu parce qu'à la fin de sa vie, il était très, c'était vraiment un ascète du goût en fait. Hein.
Oui, un ascète.
Un
ascète du goût. Oui, effectivement, on a une date à peu près au tournant de 1903-1904. Proust tombe dans une sorte de d'ascétisme, d'austérité liée bien sûr à son état de santé qui se détériore, une forte fragilité asthmatique, etc. Et on a des témoignages du fait que petit à petit il mange de moins en moins, il mange un seul repas par jour et ça
finit. Il boit beaucoup de lait, en effet.
Beaucoup de café de lait, ce qui a fait penser qu'il avait, il rejetait aussi la viande, etc. On en a fait un portrait d'un rousseauiste, c'est-à-dire qui privilégiait le lait, les œufs, les fruits, les sucreries, retombé en enfance, une certaine féminité dans ce régime qu'il adoptait. Bref, toutes les théories ont été abordées.
Il y avait quand même une vie parisienne, hein.
Oui,
il fréquentait un restaurant la mondaine. Rue, il était aussi assez mondain, mais toujours avec un régime alimentaire assez frugal. Un immense merci, Stéphane Sellier, d'avoir éclairé cette émission sur Proust à table. Signalons l'exposition qui a lieu en ce moment, donc Proust, un roman parisien au musée Carnavalet. Il y a également un nouveau livre de recettes à la table de Proust de Valérie Duclos, notamment aux éditions des Falaises. Valérie Duclos que nous avions reçu sur un précédent livre sur Flaubert. Emmanuel Gory, c'était pour la lecture des textes qu'on retrouve d'ailleurs à l'affiche de Le Roi des Pâquerettes, une pièce au théâtre de l'œuvre le jour où Blériot a traversé la Manche. La semaine prochaine, le sucre, produit du terroir ou drogue industrielle, on se pose toutes ces questions en compagnie de Jennifer Hart Smith. À dimanche prochain, merci à tous, si vous le voulez bien.